Donc on était dans le juge chapitre 3 et on était en train de voir le premier juge en Israël, Othniel, et de voir quelle avait été la situation aussi par rapport au peuple d'Israël. Alors pour ceux qui nous rejoignent hein, pour cette étude dans le livre des juges, le livre des juges, c'est une période d'environ 350 ans où le peuple d'Israël eh bien, s'empêtre dans un tourbillon, dans une spirale d'éloignement spirituel et d'abandon de Dieu. Hein, c'est un cycle que l'on revoit à chaque juge. À chaque fois, vous allez continuer de lire à partir du chapitre 3 jusqu'à la fin, vous allez retrouver systématiquement plus ou moins les mêmes situations, à savoir que Israël, eh bien, n'obéit pas entièrement à la volonté de Dieu. Israël, eh bien, joue le jeu du compromis et immanquablement s'éloigne de l'Éternel, adopte les pratiques païennes, tombe dans l'idolâtrie et à un moment donné, ça va mal et il plaide avec l'Éternel pour que l'Éternel viennent les libérer. Et l'Éternel, dans sa grâce, envoie un libérateur, un juge, pour sauver son peuple de cette situation-là. Et donc, on va juste relire les versets 7 à 11, Juges chapitre 3, versets 7 à 11. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishéathaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishéathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishéathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishéathaïm, et le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Et donc là, quand on voit Israël quelque part un peu reprendre ses esprits, hein, parce qu'ils sont dans une mauvaise posture, le peuple invoque l'Éternel, l'Éternel exauce, envoie ce libérateur, envoie donc ce premier juge, un homme surnommé le lion de Dieu, Othniel. Et c'était un homme courageux, on le sait, parce qu'on a déjà vu quelques éléments de sa vie au premier chapitre de ce livre des juges, les versets 12 à 13. On avait vu qu'il avait fait la conquête d'une ville cananéenne et que pour cela il avait obtenu la fille de Caleb pour épouse. Mais ici, dans ce chapitre 3, on estime que, eh bien, Othniel était déjà un homme âgé, environ 75 ans. On sait que c'était un homme courageux, parce que oui, au chapitre 1, on a vu ce qu'il a fait. On voit que c'est quelqu'un qui a l'expérience du combat. On voit aussi que c'est quelqu'un qui était disponible et que Dieu a choisi. Avec le récit d'Othniel, comme beaucoup des juges dans ce livre, eh bien, on se rappelle que Dieu peut se servir de n'importe qui. Il peut se servir de n'importe qui. Quel que soit notre âge, même quel que soit notre passé, quelle que soit notre position dans la société, ce qui nous est favorable ou défavorable, peu importe, Dieu peut utiliser chacun pour que son plan s'accomplisse, pour que son œuvre puisse se faire et que pour sa gloire puisse éclater. Mais la condition, c'est qu'on se mette à disposition de Dieu. Et on voit, bon, Othniel qui, comme beaucoup des juges, ben, va se mettre à la disposition de Dieu pour aider son peuple. Il a été souvent dit, et c'est vrai, que la plus grande force que l'on puisse voir agir dans la vie des chrétiens et à travers les églises, c'est lorsque les chrétiens, les chrétiennes se mettent à la disposition de Dieu. Un peu comme ce jeune Samuel, n'est-ce pas? Parle, car ton serviteur écoute. La disposition de cœur, cette volonté de vouloir servir le Seigneur, c'est ce que Dieu veut voir. Ça ne veut pas dire que systématiquement, lorsqu'une personne se dit, Dieu, je suis à ta disposition, fais de moi ce que tu veux, envoie-moi là où tu veux, ça ne veut pas dire que Dieu va forcément envoyer tel ou un tel comme missionnaire dans un pays lointain ou non. Parfois, servir le Seigneur peut revêtir, on va dire, peut-être un caractère beaucoup plus humble, beaucoup plus terre à terre. Mais ce que Dieu veut surtout voir, c'est si nous sommes disposés, disposés à obéir, disposés à suivre ses règles, disposés à suivre son plan et à ne pas chercher, ah tiens, moi j'ai une meilleure idée en allant par là. Et c'est ce qu'on va voir un peu par la suite, hein, c'est que même si Dieu il a appelé plusieurs personnes à être juges en Israël et qu'ils ont permis à Israël d'être délivrés de l'oppresseur, parfois ces juges ben, n'ont pas forcément obéi entièrement à ce que Dieu demandait. Ce qu'il faut souligner, surtout ici, comme pour tous les juges, c'est la puissance qui accompagne eh bien, celui ou celle qui se met à la disposition du Seigneur. Othniel a pu libérer ce peuple d'Israël. Pourquoi? Ben, on voit ici dans ce passage, au verset 10, que l'esprit de l'Éternel fut sur lui. Et ça, c'est toute la différence. L'esprit de l'Éternel. Othniel ne possédait pas par lui-même la puissance, le pouvoir, la capacité forcément de délivrer tout le peuple d'Israël. Mais voilà, lorsque l'esprit de Dieu eh bien, est associé à une personne qui est disposée à servir le Seigneur, eh bien, de grandes choses peuvent être accomplies. On sait que, même si Othniel est ce juge, ce libérateur envoyé par l'Éternel, que tout cela s'est fait par la puissance de Dieu. C'est l'Éternel qui a entendu les prières du peuple, c'est l'Éternel qui a exaucé les prières du peuple, et c'est l'Éternel qui a envoyé son esprit sur Othniel afin d'accomplir cette libération. Alors certains juges dans ce livre sont explicitement décrits comme ayant reçu l'esprit du Seigneur. Un Gédéon, ou Jephté, Samson. D'autres ont très certainement eu l'Esprit du Seigneur sur eux pour accomplir ce qu'ils ont pu accomplir. Ce n'est pas spécifié. Alors peut-être que c'est spécifié pour une raison, mais on ignore hein, pour quelle raison certains, ben voilà, on souligne le fait que, eh bien, l'Esprit de l'Éternel était sur eux. Mais voilà, je tenais à souligner déjà cela pour montrer que, il y a un certain libre arbitre quand même. Parce que si on voit quelqu'un comme Othniel, homme sur qui l'Esprit de l'Éternel reposait, et un homme comme Samson, sur qui l'Esprit de l'Éternel reposait aussi. Mais on sait bien et on connaît assez bien l'histoire de la vie de Samson pour comprendre, voilà quelqu'un qui avait tout ce qu'il fallait pour être le libérateur. À savoir une puissance extraordinaire, hein, la capacité à lui seul de terrasser des centaines d'hommes, parce que l'esprit reposait sur lui. Mais voilà, on avait aussi un homme qui n'était pas disposé à suivre le plan de Dieu. Et donc, ça montre que oui, dans le service du Seigneur, le Seigneur va donner à ses enfants des dons spirituels, mais c'est vrai que beaucoup de chrétiens négligent ces dons, beaucoup de chrétiens ne vont pas suivre, eh bien, le plan de Dieu pour leur vie et passer à côté non seulement de bénédictions pour eux-mêmes, mais la capacité de glorifier le Seigneur en employant tout ce que le Seigneur met à leur disposition. Donc c'est lorsque le chrétien va vivre et va marcher selon l'Esprit, hein, sachant que celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ hein, pour le pardon de ses péchés et en Christ seul, hein, pas par ses œuvres, mais vraiment, il s'est repenti de ses péchés, placé sa foi en Jésus-Christ, Eh bien, les Écritures nous montrent qu'une telle personne reçoit l'Esprit Saint au moment de sa conversion. Alors, je sais que dans le livre des Actes, et c'est différent. Pourquoi? Parce que le livre des Actes, on a une période de progression. On a une période où il faut établir non seulement la parole de Dieu, mais l'autorité aussi de la parole de Dieu. Hein, et c'est pour cela que le Seigneur a accordé des apôtres, des prophètes, avec des dons extraordinaires et miraculeux, qui ont permis l'avancement et de l'évangile, et puis le fondement nécessaire pour l'Église, hein, les apôtres et les prophètes. Et donc, le chrétien né de nouveau, l'Esprit de Dieu habite en lui. D'ailleurs, les Écritures nous disent même que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque un chrétien, eh bien, se soumet à la volonté de Dieu et est obéissant, eh bien, l'Esprit de Dieu va pouvoir agir dans sa vie, c'est-à-dire l'aider, le fortifier, l'équiper et l'amener à pouvoir accomplir des choses extraordinaires pour le Seigneur. Et il y a des hommes comme cela, hein, qui, en se soumettant à la volonté de Dieu, ont servi le Seigneur, des hommes qui ont pu amener des milliers d'âmes au Seigneur. Et certains, on se demande, mais comment ils peuvent faire ça? Ils ont quand même quelque chose de plus, quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que c'est quand nous, chrétiens, eh bien, nous sommes soumis à la volonté de Dieu et que nous faisons ce que nous sommes supposés faire et que l'Esprit, eh bien, a libre accès à notre vie, que Dieu va nous employer pour son œuvre et pour son plan, et non seulement faire des choses extraordinaires dans notre vie, mais aussi à travers notre vie. Alors, je parle un peu de l'esprit ici parce que il en est vraiment question hein, dans ce livre des Juges. Hein, la présence et l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup qui se disent bon, l'Esprit Saint, c'est un truc du Nouveau Testament. On le voit pas dans l'Ancien. Non, ça c'est une grave erreur de croire et de penser cela. L'Esprit Saint, il est présent, actif dans la création. Il est surtout actif et présent dans la révélation, dans l'inspiration. Hein, ces prophètes qui nous ont apporté ces écrits, qui ont révélé la volonté de Dieu pour le peuple d'Israël, apporté ces prophéties concernant le Messie et autres, ces hommes étaient, eh bien, remplis de l'Esprit et ont écrit et proclamé le message de Dieu sous son inspiration. 2 Samuel chapitre 23 verset 2 est un exemple. Hein, l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. L'Esprit était celui qui animait, qui montrait, qui donnait à ces hommes de Dieu ce qu'ils devaient proclamer au peuple. Pareil pour Michée, hein, le prophète Michée au chapitre 3, verset 8, mais moi je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Donc voilà, l'Esprit a toujours été présent. Présent dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance, hein, comment dire, le fait que l'Esprit hein, soit reconnu comme celui qui a inspiré hein, les Écritures est quelque chose d'évident. C'est ce que bon, Pierre va mentionner effectivement dans sa seconde épître au chapitre 1er. Hein, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Seigneur lui-même a souligné le fait que c'était animé par l'Esprit que David avait pu dire, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais voilà, le ministère du Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance, sa façon d'agir dans l'Ancienne Alliance est quelque peu différent de ce que nous voyons dans la Nouvelle Alliance. Et l'une des différences notables, c'est que dans l'Ancienne Alliance, justement, l'Esprit de Dieu pouvait s'en aller, se retirer d'une personne. Tandis qu'aujourd'hui, eh bien, l'Esprit réside dans le corps du croyant qui en est le temple. Et c'est pour ça que vous retrouvez, comme dans le psaume 51, hein, ce psaume de repentance de la part du roi David après son péché avec Bathsheba, après que l'enfant soit mort, La prière de David envers l'Éternel, c'est « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Parce que dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit Saint pouvait venir sur une personne pour accomplir quelque chose et puis se retirer de cette personne. Mais nous, en tant que chrétiens, dans cette nouvelle alliance, eh bien, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Hein, Éphésiens 4:30 nous dit justement de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, le même Esprit Saint, toujours hein, le même, des actions différentes, des ministères différents, mais surtout cette grande différence, c'est qu'aujourd'hui, pour le chrétien, l'Esprit Saint réside en nous. Alors voilà, ça nous fait quand même poser une grande question, c'est pourquoi est-ce que nous n'accomplissons pas un des actes aussi braves, aussi courageux que ces libérateurs à l'époque des juges, d'aller au-devant de l'ennemi, d'affronter l'ennemi, et je ne parle pas d'affronter physiquement, parce que dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, n'est-ce pas? C'est un combat qui est spirituel. Mais alors pourquoi est-ce que nous, eh bien, nous ne voyons pas l'Esprit Saint avec cette même intensité qu'on le voit dans l'Ancien Testament, dans notre vie aujourd'hui? Et je crois sincèrement, c'est parce que trop souvent encore, nous cherchons à faire les choses par nous-mêmes, par nos propres capacités, au lieu de nous fortifier par celui qui nous fortifie, à savoir Christ, au lieu de prendre les dons spirituels que l'Esprit nous a accordés et de les employer, même si ce n'est pas le don le plus extraordinaire qu'on puisse penser. Moi, je pense quand même que n'importe quel don que l'Esprit va accorder à un chrétien, c'est un don extraordinaire. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui équipe, c'est Dieu qui va accorder la capacité et la puissance de le servir. C'est quand même extraordinaire. Laissez-moi juste apporter une citation d'un théologien, Ryrie, qui dit à sujet de cette différence entre l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il dit: Peut-être pourrais-je établir une analogie entre le ministère de l'Esprit dans l'Ancien Testament et la grâce dans l'Ancien Testament. Les deux étaient présents durant cette période. On retrouve l'Esprit de Dieu, on retrouve la grâce de Dieu hein, dans l'Ancien Testament. Les deux étaient présents donc durant cette période, mais l'Esprit qui œuvrait dans l'Ancien Testament, eh bien, devait venir avec de nouveaux ministères plus complets après la Pentecôte, de la même manière que les manifestations de la grâce dans l'Ancien Testament était faible en comparaison de la grâce qui a inondé le monde lorsque Christ est venu. C'est-à-dire que même cette grâce que nous voyons ici dans le livre des Juges, ce n'est quelque part qu'un pâle reflet de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. C'est toujours la même chose. C'est par amour que Dieu y fait grâce. La grâce, c'est toujours quelque chose qui est immérité. Mais voilà. En Jésus-Christ, nous sommes les bénéficiaires d'une meilleure alliance, comme nous le répète hein, l'Épître aux Hébreux. Nous avons un souverain sacrificateur qui est excellent, un sacrifice qui a été parfait sur la croix. Nous avons un salut qui est parfait, c'est-à-dire que on n'a rien besoin de faire, si ce n'est que de nous agenouiller devant Christ et dire: Oui, je suis pécheur, pardonne-moi. Aide-moi à ne plus pécher. Et ça, c'est quelque chose d'encore plus extraordinaire que ce que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Mais c'est toujours le même esprit. Et c'est ce même esprit qui a été prophétisé, qui allait accomplir des choses encore plus extraordinaires plus tard. Ah, vous connaissez certainement ce passage de Joël, chapitre 2, verset 28, où le prophète Joël prophétise ainsi: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et ça, c'est ce que l'on voit se produire dans le livre des Actes. C'est le signe que Dieu avait envoyé pour que son peuple d'Israël puisse dire: Wow, attends une minute. Ça, c'est ce que Joël avait dit. Et si ça, c'est en train de s'accomplir, est-ce qu'on aurait raté le Messie? Ça, c'était un signe de la part de Dieu pour le peuple d'Israël que lorsqu'il voit, hein, dans Actes chapitre 2 et verset 17, et Pierre qui va réitérer, hein, cette prophétie, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est carrément presque mot pour mot la prophétie de Joël. Et c'est là, à ce moment-là, à la Pentecôte, que c'est en train de se produire. Alors que ce soit dans l'ancienne dispensation ou dans celle-ci, la vérité, c'est que livrés à nous-mêmes, nous sommes incapables de servir Dieu comme il le mérite, ou même, je dirais, avec une efficacité constante. Et donc pour nous, la seule façon d'être vraiment utile au Seigneur pour son œuvre, eh bien, c'est de nous laisser humblement utiliser par lui, d'être guidés par l'Esprit de Dieu, comme l'était Othniel et d'autres dans ce livre des Juges. Laissez-moi juste vous rappeler, hein, ce passage de Galates chapitre 5, verset 16, où l'apôtre Paul nous dit de marcher selon l'Esprit. Pourquoi? Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que c'est un choix de notre part de marcher selon l'Esprit, parce que nous vivons selon l'Esprit. Nous avons reçu la grâce de Dieu, l'Esprit vit en nous. Mais voilà, il nous faut marcher selon l'Esprit. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous agissons de la sorte, eh bien, nous délaissons le péché, et en délaissant le péché, eh bien, nous sommes toujours plus aptes à pouvoir servir le Seigneur de la meilleure manière possible. Si nous vivons par l'Esprit, verset 25, marchons aussi selon l'Esprit. Nous devons être remplis de l'Esprit. C'est-à-dire qu'on doit laisser la place entière à l'Esprit de Dieu dans notre vie. On connaît bien ce verset d'Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et beaucoup de chrétiens vont dire, ah voilà, boire du vin, c'est du péché, etc. Et puis, il faut pas boire de vin, etc. Mais rate surtout la deuxième partie. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Pourquoi? On peut être enivré d'autre chose que du vin. C'est-à-dire qu'on peut laisser des passions nous enivrer l'esprit. On peut laisser certaines activités et certaines choses prendre la place que l'Esprit Saint devrait avoir dans notre vie. Et à ce moment-là, on ne peut pas être rempli de l'Esprit Saint. Mais voilà, l'Esprit de Dieu nous donnera donc la force, justement, de résister aux ennemis qui nous entourent, résister aux tentations, et l'Esprit de Dieu nous rendra puissants pour la gloire du Seigneur. Et va pouvoir nous utiliser de la manière dont il a prévu. C'est la puissance que Dieu a prévue pour son Église. En Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que la puissance derrière, eh bien, la propagation de l'Évangile, derrière le fait que des églises soient fondées, que des églises naissent et que des âmes viennent au Seigneur, c'est le fait que des chrétiens se sont soumis à la volonté de Dieu, se sont laissés remplir de l'Esprit et ont accompli l'œuvre de l'Esprit. D'être les témoins. Alors oui, cette conquête d'Othniel, on a très peu de détails sur ce qui s'est passé, mais voilà, on sait que parce que l'Esprit de Dieu reposait sur lui, il a pu vaincre ce roi mésopotamien dont le nom signifierait doublement méchant et sombre. Dieu avait permis à Othniel de libérer Israël de l'esclavage de ce roi païen. Ils ont souffert pendant ces 8 années sous la main de ce roi cruel. Et pendant le restant du temps, pendant 40 ans environ, eh bien, Othniel a été juge sur Israël après la victoire que l'Éternel lui avait accordée sur ce roi méchant. Alors, il y a plusieurs questions qu'il faut nous poser. Est-ce que l'on veut vraiment que le Seigneur emploie notre vie pour sa gloire? Est-ce que c'est ce que nous désirons vraiment? Est-ce que l'on désire voir Dieu accomplir de grandes choses dans notre vie et à travers nous? Je crois que dans ce livre des juges, ça nous montre clairement que si nous laissons quelques places, que ce soit dans notre cœur, qui va grignoter ce qui appartient au Seigneur, prendre la place de ce qui appartient au Seigneur, on va être dans ce même cycle que ce peuple d'Israël pendant cette sombre période. Ce qu'il nous faut, c'est nous soumettre au Seigneur, nous soumettre à sa volonté, nous laisser guider, nous laisser diriger. Alors, est-ce que votre vie spirituelle, votre relation avec le Seigneur aujourd'hui, elle a la priorité sur le reste? Ou sommes-nous préoccupés par les études, la carrière, préoccupés par les relations entre hommes-femmes, les relations d'amitié? Est-ce que nous sommes préoccupés par toutes ces choses-là? Et je sais que l'on vit dans une société qui est extrêmement préoccupée, avec des jeunes qui souffrent d'anxiété parce qu'ils sont préoccupés par le changement climatique, préoccupés par la guerre et la montée du racisme et toutes ces choses. Toutes ces choses qui prennent la place de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Si nous sommes inquiets pour ceux qui nous entourent, si nous sommes tournés vers les choses du monde, eh bien, on ne va pas pouvoir servir le Seigneur. On ne va pas pouvoir voir le Seigneur nous employer pour faire des choses extraordinaires, pour pouvoir amener des âmes au Seigneur, pour pouvoir les enseigner, pour pouvoir les aider à grandir dans leur foi. Mais ça commence avec cette simple question: est-ce que je veux que le Seigneur m'emploie? Et est-ce qu'on le lui a dit? Est-ce qu'on le lui a déclaré? Parle, car ton serviteur écoute. La prochaine leçon, Dieu voulant, nous verrons donc le deuxième juge, Éhud, et on verra des choses intéressantes déjà, parce que avec Othniel, on avait déjà quelqu'un qui était apte à mener des combats. C'était un guerrier, c'était quelqu'un qui était courageux, qui n'avait pas peur d'affronter les ennemis. Et on va voir que l'Éternel va aussi employer des personnes qui, au premier abord, on se dit, ah non, lui, c'est peut-être pas la meilleure personne pour ce travail-là. Et ça sera aussi une leçon pour nous. C'est-à-dire que l'homme, il regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, il regarde au cœur. Et quand il voit un cœur qui est prêt, qui est disposé, eh bien, l'Éternel va employer une telle personne et surprendre beaucoup de gens, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur, il emploie même les choses folles du monde, n'est-ce pas? Donc, on verra toutes ces choses, Dieu voulant, la prochaine fois, ce récit de la vie d'Éhud. Et vous verrez que c'est déjà un peu plus touffu, un peu plus détaillé que Othniel. Mais est-ce que vous avez des questions peut-être sur ce que l'on a vu ce soir?